Et à midi, on aime l'été. Bonjour à vous toutes et vous tous, ravi de vous retrouver une fois encore en ce 3 août 2017. Clotilde Seille au micro et ses invités, parce qu'il y en aura encore beaucoup aujourd'hui, chroniqueurs, mais aussi une entrevue. Tiens, on commencera d'ailleurs par ça après quelques nouvelles. Je reçois en studio, s'il vous plaît, je suis tellement contente qu'il soit venu nous voir, Sylvain Noël, qui est président du conseil d'administration de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval. Bonjour, monsieur Noël.
Bonjour, madame
Seille. Et merci d'être là. Il va falloir vous approcher du micro, par contre, si vous voulez qu'on vous entende. Hein? Oui.
Voilà, c'est fait.
Et puis ensuite, il y aura une chronique Vision avec Sarah Rouleau, qui est responsable communication, marketing et événements spéciaux à Inca Québec. Il y aura également une chronique sport, du moins je l'espère, que nous parviendrons à joindre Émilie Bouchard Labonté aujourd'hui, qui nous parlerait, si tout va bien, des Jeux para aux Jeux de la francophonie. Et puis également, France Remède sera là pour une chronique pour les personnes peut-être un petit peu plus âgées, mais qui ont encore plein de vie au fond d'elles. Comment s'y prendre pour rester actif et en forme? Elle nous fera des propositions d'activités, toutes axées bien évidemment sur le plaisir. Ah. Et puis quelques nouvelles tout de suite, là, après Christine Tassin et les imposteurs. D'abord, bon, c'est peut-être pas une excellente nouvelle pour commencer cette émission-là, mais que voulez-vous, c'est une réalité qui existe aussi. Le nombre d'aveugles dans le monde va tripler en 2050. Cette augmentation pourrait toutefois être freinée à condition d'investir davantage dans le développement de nouveaux traitements, estiment les auteurs de cette étude publiée dans la revue britannique The Lancet Global Health. 217 millions de personnes étaient par ailleurs touchées par une déficience visuelle modérée à sévère en 2015, soit 35% de plus qu'en 1990, et elle devrait être 588 millions en 2050, estime l'étude, qui a compilé des données portant sur 188 pays. Plus d'un milliard de personnes souffriraient par ailleurs de presbytie, un trouble de la vision de près qui apparaît avec l'âge. Ces statistiques comptabilisent uniquement les personnes qui ne bénéficient pas d'une correction adaptée, a précisé à l'AFP Rupert Bourne, professeur à l'université Anglia Ruskin au Royaume-Uni. L'étude montre qu'il y a de très fortes disparités géographiques avec une prévalence nettement plus élevée dans les pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne et en Asie. On compte ainsi 1,98% d'aveugles en Afghanistan et 1,86% en Éthiopie, contre seulement 0,08% en Islande, en Belgique et au Danemark. En France, la proportion est estimée à 0,14%. Les femmes sont par ailleurs les plus touchées, puisqu'elles représentent 56% du total des personnes aveugles et 55% des déficients visuels. Malheureusement, dans cet article puisé dans lapresse.ca, on ne nous donne pas de chiffres récents de ce qui se passe au Québec et au Canada. Des petites choses qui calment. C'est arrivé drôlement dans notre vie, peut-on lire également dans lapresse.ca. C'est Roger Blackburn qui écrit ça. À chaque fois que je voulais utiliser du papier d'aluminium pour la cuisson, dit cette maman, le rouleau était vide et je ne comprenais pas pourquoi. Un jour, dans la chambre d'Alexandre, son fils, je remarque des boulettes de papier d'aluminium dans la poubelle. Il sculptait des dinosaures et les jetait au panier. « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» que je lui demande. Et il me dit « Je joue », raconte sa mère, Pauline Séguin, rencontrée à sa résidence sur le bord du lac Bouchard à Sainte-Rose-du-Nord. Elle lui a évidemment dit qu'il n'avait pas à se cacher pour jouer avec le papier d'aluminium et elle lui a acheté un gros rouleau pour s'amuser. Il avait 7 ans. Vous aurez compris que ce petit garçon vit avec le trouble du spectre de l'autisme. Eh bien, depuis ce temps, ça n'arrête pas. Alex fait des sculptures. Tous les jours. Avant, il sculptait avec de la pâte à modeler, mais il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. C'était mou, c'était difficile à manipuler. Alors, il a fait toutes les espèces de dinosaures possibles. Je les connaissais par leur nom scientifique. Il y en avait partout dans la maison. On ne savait plus, on n'avait plus de place où s'asseoir. On a fini par lui faire comprendre qu'il devait faire une sélection et se débarrasser de ceux qu'il aimait moins. Il ne veut pas les donner. Il préfère les jeter, raconte sa mère, souriante et dédiée à son fils. Le budget de papier alu pouvant atteindre 80 dollars par mois. Son père, Roger Gagné, raconte que c'est le club Kiwani qui fournit gracieusement les rouleaux de papier aluminium qu'utilise Alexandre. Ces temps-ci, il s'inspire beaucoup des personnages qu'il voit dans des films ou dans des jeux sur Internet, comme King Kong ou Godzilla. C'est une activité qui le calme, ça lui fait du bien, explique M. Gagné, qui a choisi d'habiter au bord d'un lac parce que la présence de l'eau a un effet bénéfique chez les autistes du type d'Alexandre. Sa maman racontait en début d'entrevue qu'Alexandre ne veut pas donner ses sculptures. Et là, on nous raconte que lors d'un souper bénéfice pour la Fondation Jean Allard, un organisme dédié à la cause de l'autisme, le couple s'est retrouvé à la même table que Stéphane Bédard, l'ancien député de Chicoutimi. Alexandre venait de réaliser une sculpture pendant le souper, avec du papier alu. Et par un geste de gentillesse, M. Bédard a offert à Alexandre d'acheter sa sculpture. Mais il n'a jamais réussi à le convaincre, raconte en riant sa maman, qui garde un bon souvenir de cette soirée. Alexandre qui, si vous vous posez la question, est présentement en troisième secondaire et qui a fait tout son parcours scolaire malgré ce trouble de l'autisme. Il va à l'école La Fontaine dans un programme spécial et c'est la première année qu'il prend l'autobus. Il sait lire et écrire. Alors si un jour, figurez-vous qu'ils veulent maintenant pouvoir vendre quand même ses sculptures, il a accepté le petit par Facebook. Alors si un jour vous voyez passer sur Facebook, hein, c'est bon matin, une sculpture faite en papier aluminium, achetez-la pour le plus grand plaisir du petit Alexandre et de ses parents. Également, les défis de la surdité, 25 ans après la fermeture de l'école des sourds de Saskatoon. Plus de 25 ans après la fermeture de l'école des sourds de Saskatoon en 1991 et à l'occasion de sa 85e réunion des anciens, plusieurs personnes sourdes et malentendantes reviennent sur les défis liés à ce handicap. Sarah Vermette fait partie du comité d'organisation de cette réunion. Elle a appris qu'elle était malentendante à l'âge de 10 ans et peut lire sur les lèvres. Madame Vermette témoigne de sa joie quand elle a enfin pu parler avec des signes. « Mon cœur a explosé de joie quand j'ai commencé à être capable de m'exprimer sans mots, sans avoir à lutter. » Elle explique que l'attention maintenant est surtout portée sur les appareils auditifs, une technologie qui ne fonctionne pas pour tous. Sonia Van I, la mère du petit Noah, âgée de 3 ans, apprend le langage américain des signes avec son fils parce qu'elle souhaite qu'il puisse s'épanouir dans la langue qui lui est le plus accessible. Elle dit que pour l'instant, elle apprend au même rythme que son fils et qu'elle ne peut lui offrir que ce qu'elle apprend elle-même. Je pense que c'est important pour mon fils d'apprendre un langage qui lui est accessible. L'année dernière, la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan a effectué une enquête sur les communautés sourdes et malentendantes de la province et a découvert une discrimination systémique. À la suite de cela, un comité de travail a été formé pour trouver une solution à certains obstacles auxquels sont confrontées les personnes sourdes ou malentendantes. De plus, des membres et des groupes de la communauté ont collaboré avec le cabinet juridique McKercher et entreprennent une campagne de lobbying pour résoudre les obstacles relatifs à l'accès au langage. C'est un papier qui a été écrit d'après les informations d'Anouk Lebel. Bonjour Sylvain Noël.
Bonjour Madame Seille.
Tellement, tellement contente que vous vous soyez rendue jusqu'à nous. Remarquez, vous partez pas de si loin de ça, mais quand même, c'est tellement plaisant quand nos invités sont là en studio. Sylvain Noël, vous êtes le président du CA de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval.
Exactement.
Je voudrais d'abord que vous nous rappeliez quelle est la vocation de cette académie-là et puis ensuite on va parler des objectifs à venir et tout ça.
Exactement. L'Académie théâtrale L'Envol de Laval, ou Théâtre L'Envol, comme tout le monde nous appelle,
oui,
a été fondée il y a 10 ans,
oui,
dans le but de nous créer, à moi et à des amis, de la famille, un loisir théâtral. Donc,
oui,
c'est des amateurs qui performent et qui tirent leur plaisir à jouer une fin de semaine, deux fins de semaine là, par année depuis maintenant 10 ans.
Et en 2013, il s'est passé quelque chose, M. Noël, hein, dans votre famille, qui a fait que les choses ont changé.
Ont basculé. C'est le cas de le dire, oui. Ma sœur Sylvie Noël, que je salue, est devenue soudainement non-voyante suite à une opération au tout près du nerf optique, et le nerf optique a lâché, a cédé. Donc, ma sœur, avec son grand courage, sa grande résilience, a réappris très rapidement à se réapproprier sa vie, et ça m'a inspiré pour développer un concept qu'on appelle, nous, la thératodescription, parce qu'on s'est aperçu en 2013 qu'il n'existait absolument rien pour les personnes ayant des limitations visuelles là, au théâtre, au cinéma et toute autre
Ben,
manifestation
manifestation, c'est ça,
culturelle.
culturelle.
Exactement.
Alors, c'est donc depuis 2013 maintenant, si je vous comprends bien, toutes les productions de l'Envol sont accessibles aux personnes non-voyantes. C'est bien ça?
Et malentendantes
Et
aussi.
malentendantes
Oui,
aussi.
je vous écoutais parler
C'est ça.
tantôt et c'est un système que nous avons acquis qui permet à toute personne qui a un téléphone intelligent ou un iPad ou un iPod de choisir le canal de son choix, qui choisit soit le canal malentendant pour les personnes qui ont des limitations auditives ou théatrodescription pour les personnes qui ont limitations visuelles. Et ce canal-là, théatrodescription, permet à la personne non-voyante d'entendre la voix du narrateur, mais uniquement dans ses écouteurs à lui ou à elle.
C'est fantastique parce que, vous le dites vous-même, c'est un théâtre tout modeste. Vous avez fait ça au départ, vous vouliez créer quelque chose en plus à moindre coût, hein, que ça ne coûte pas cher.
Exactement.
Hein, c'était ça, hein, le but de la chose aussi au départ.
Exactement, exactement. Puis à ce niveau-là, nous savons fort bien que les gens ayant des limitations visuelles sont très souvent peu fortunés, n'ont pas beaucoup de moyens. Alors là, on leur donne l'accessibilité économique aussi à des œuvres
Mais oui.
théâtrales de qualité. Nous jouons la plupart du temps à la Maison des Arts de Laval. Donc, nous permettons à des gens là, pour 20 $, 25 $, incluant l'accompagnateur, parce que les accompagnateurs
Oui, bien sûr. Ben oui.
sont admis gratuitement avec toute personne non-voyante. Alors là, ça ne fait pas une sortie bien, bien onéreuse.
Non, c'est certain. Alors, parlons-en de ces sorties. Qu'est-ce qui se prépare là prochainement?
Ben, écoutez, on est très heureux, on est fébrile. Nous sommes en pleine période de festivités. Nous fêtons le 10e anniversaire de l'Académie
Oui.
théâtrale. Donc, nous avons décidé d'aller de l'avant pour entamer notre deuxième décennie, d'innover et d'y aller avec un théâtre d'été. Nous n'avons jamais joué, présenté une pièce de théâtre durant l'été. Et là, nous allons le faire le 18, 19 et 20 août prochain. Un
D'accord.
magnifique petit théâtre
Alors,
en bas.
c'est où ça, où ça?
C'est le théâtre de la Grangerie. Pour les
Oui.
Lavallois, la plupart savent où c'est, mais
Oui.
pour les néophytes, si je peux
Oui.
dire, c'est en bordure de l'autoroute 13,
Oui.
à l'endroit où le boulevard Saint-Martin est un cul-de-sac.
Ah,
Donc, c'est
d'accord.
juste en arrière d'un site historique formidable, la maison Benjamin Papineau.
OK.
Donc, c'est juste en arrière. C'est une ancienne grange qui est aménagée en théâtre. C'est pour ça qu'on l'appelle la Grangerie. Et la production qui va y être présentée, c'est une pièce de la plus pure tradition des théâtres d'été. Ça s'appelle Camping Giroux.
Oui,
Donc, ça se passe, les
dans un
campings, c'est
camping, ben
l'été.
oui, c'est ça, exactement. Alors, donc, avec tout ce qu'on peut imaginer, des
Absolument.
rebondissements, des
Oui,
histoires d'amour, des
oui, oui.
histoires de jalousie, des
Oui,
histoires de tout
du
ça, du
commérage.
commérage, du mémérage
Oui.
d'été, tout ce qu'on aime en
Oui.
été.
Pour ceux qui ne connaissent pas le camping, c'est le temps de venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que c'est une caricature, c'est
Ben
grossi,
oui, bien
c'est
sûr.
rigolo, mais ça se rapproche beaucoup de ce qui se passe dans les terrains de camping,
Et oui,
surtout
hein, exactement.
auprès des campeurs saisonniers.
Est-ce que ce sera présenté aussi avec théatrodescription?
Absolument. Toutes nos
Absolument.
productions
Bon.
depuis 2014 sont en théâtrodescription. La particularité cette année, par contre, c'est que la représentation du vendredi, nos équipements ayant été requis autre part, alors à ce moment-là, les représentations en théâtrodescription sont le samedi 19 août et le dimanche 20 août. Celle du 18 ne l'est pas
Ne l'est pas,
accessible.
d'accord. Avant qu'on. Je voudrais, parce que vous avez eu la gentillesse de nous proposer des billets, donc on va avoir des billets à offrir à nos auditeurs.
Absolument.
Juste avant, je voudrais qu'on aborde cette question-là. Comment ça se fait Si vous avez une réponse à m'apporter, M. Noël, mais pourquoi les théâtres sont-ils aussi frileux à ne pas apporter cette solution-là? On sait que, par exemple, quand on va à l'opéra, il y a toujours les sous-titres en anglais et en français. Bon, alors ça, c'est au moins une chose, là, mais sauf que souvent, c'est pour les personnes qui sont malentendantes de toute façon. Alors, elles sont capables de voir, sauf qu'elles entendent mal ce qui se passe, ce qui est un petit peu ridicule. Alors, on va dire que c'est surtout fait pour les gens qui sont parfaitement voyants et parfaitement entendants, juste pour être sûr qu'ils comprennent bien l'histoire. Mais comment se fait-il que les théâtres sont encore si frileux à installer ça?
Ils n'y voient pas la clientèle suffisante parce que les personnes ayant des limitations visuelles ne se contentent de peu, se contentent de ce qu'ils ont à la maison, la télévision, en vidéo description et tout ça. Alors, les théâtres n'y voient pas, excusez-le si je suis direct, n'y voient pas comment ça pourrait être rentable. Alors là, nous, l'an prochain, je vous l'annonce, la Ville de Laval est notre partenaire dans ce projet-là. Nous allons, l'Académie théâtrale L'Envol de Laval, avoir une première production professionnelle au Théâtre de la Grangerie au mois de juillet l'an prochain.
Bon, avec encore théâtre-description.
Absolument.
Alors, rappelons le titre de la pièce.
La pièce de cette année, c'est Camping Giroux.
Camping Giroux, présenté au Théâtre de la Rouge...
Non, c'est au Théâtre de la Grangerie.
De la Grangerie, je savais que je faisais une erreur.
Oui.
De la Grangerie à Laval.
Oui.
Et vous nous offrez combien de billets pour des auditeurs, monsieur?
Je vous offre 4 billets.
4 billets. Oui. Alors, écoutez-nous bien, vous qui nous écoutez en ce moment, vous pouvez nous joindre dès maintenant au numéro que je vous donne, le 282-1999, le poste 220, 282-1999, le poste 220. Les 4 premières personnes, ou les 2 premières personnes, parce qu'on va attribuer deux paires de billets, qui nous laisseront leur nom et leur numéro de téléphone, eh bien, ça nous fera plaisir à ce moment-là de vous mettre en contact avec le théâtre de L'Envol. Attention, si vous avez besoin de théâtrodescription, seuls les représentations, merci beaucoup mon ami de m'avoir aidé, les représentations du 18 et du 19 et du 20.
Oui, le 19 en soirée à 20h et le 20
en
après-midi.
D'accord, donc le samedi et le dimanche. Attention, pour le vendredi, il n'y aura pas de théâtrodescription. Je vous redonne une nouvelle fois le numéro de téléphone 282-1999, poste 220, pour aller voir cette pièce qui, je suis convaincue, est assez bonne, présentée par le Théâtre de L'Envol, créé par vous-même, Sylvain Noël. Merci beaucoup. Bonjour à votre sœur, bonjour à toute votre équipe et bravo pour le beau travail que vous effectuez. Merci.
Merci.
Bonne journée.
J'ai regardé, j'ai même parfois touché. Quand il faisait trop noir, je suis retournée tenter encore une fois ma chance. Mais les gens ne pensent qu'à boire. Quand tout d'un coup le cinéma commence, chacun vit une histoire, ouais, dans les cinémas bas. On voit de tout, chacun joue le rôle dans a toujours rêvé. Bah au cinéma, bah de mon quartier, jouer à devenir n'importe qui. J'ai vu des hommes se prendre pour des femmes dans les cinémas, bah j'en ai vu d'autres insulter quand on leur dit madame. Mais comment peut-on savoir quand tout le bar m'abrège la bonne à son client troublé. Ensuite il reste rien de personnel qui fait tout oublier, ouais. Dans les cinémas bas on voit de tout, chacun joue le rôle dont il a toujours rêvé. Va au cinéma bas de ton quartier jouer à devenir n'importe qui. Thank you.
Bonjour Sarah Rouleau, vous êtes là?
Oui, bonjour.
Alors Sarah, grosse chronique encore aujourd'hui, c'est pour ça que je vais vite fait vous représenter. Vous êtes responsable communication, marketing, événements spéciaux à Inca Québec. Le sujet aujourd'hui, un nouveau groupe pour nouveaux ou futurs parents vivant avec une perte de vision, c'est bien ça?
Oui, exactement. Donc c'était l'occasion là, de parler de ce nouveau programme qui est offert chez INCA, mais aussi d'aborder là, la réalité des parents qui vivent avec une perte de vision.
Bon, alors, ce nouveau groupe-là, il sera donc dédié aux futurs parents, vous venez de nous le dire, il sera animé par qui?
Oui, donc ça va être un peu comme nos autres groupes de soutien. C'est un groupe qui peut être offert par téléphone ou sur place selon la demande et qui sera animé par notre intervenante psychosociale.
D'accord.
Et c'est gratuit et à travers toute la province. Donc, si c'est par
c'est
téléphone,
gratuit.
On peut rejoindre vraiment tout le monde.
C'est
oui,
fantastique.
C'est gratuit comme la majorité de nos services à INCA. Et on sait qu'avoir un bébé, là, à la base, ça amène son lot de questionnements.
Oui,
donc,
oui.
On peut imaginer lorsqu'on vit avec une perte de vision, les questionnements ou les peurs qu'on peut avoir.
Mm-hmm.
Donc, le but, c'est de développer ce groupe-là va aider à développer des stratégies pour s'adapter à notre nouveau rôle de parent quand on a une déficience visuelle, puis être le plus autonome possible. Donc, ça va être les parents vont pouvoir échanger des trucs avec des gens qui, comme eux, vivent avec une perte de vision, parler des difficultés rencontrées qui ne sont pas les mêmes que les parents voyants. Il y en a que oui, mm-hmm. tu sais, c'est sûr qu'avoir un enfant, ça reste nouveau pour tout le monde.
Mais bien sûr.
Dans cette situation particulière, puis d'essayer de trouver des solutions ensemble, parce que les solutions, il y en a qui n'existent pas, mais il faut user de créativité, puis ensemble, des fois, c'est une belle façon.
Ben oui. Et ça commence cet automne, hein?
Oui, c'est dès septembre, et ça va durer là, 1h30 pendant 6 semaines, donc c'est pour ça qu'on en parle tout de suite, là,
pour que
les gens soient au courant et peut-être s'inscrire là, pour l'automne.
Bien sûr. D'ailleurs, on va vous donner absolument toutes les informations pour le faire, bien sûr. Si vous avez créé ce groupe, c'est parce que les besoins sont importants, Sarah, hein?
Oui, exactement. En fait, il y avait plusieurs parents qui nous appelaient, qui souhaitaient avoir des ressources, puis de pouvoir surtout échanger, là, comme je disais, avec des personnes qui sont dans la même situation qu'eux. Donc, bien que souvent les parents ou le conjoint les supportent, donc ils ont un support, ils sont encouragés, mais d'avoir un conseil d'un papa ou d'une maman voyante, la personne ne pourra jamais comprendre qu'est-ce qu'on vit ou encore là, donner des conseils adaptés. Donc, les gens, c'était ça qui manquait, de pouvoir parler avec d'autres personnes dans leur situation puis d'avoir des ressources ou des conseils adaptés à la situation.
Mm-hmm.
Donc, on a fait des recherches, on a regardé ce qui se faisait ailleurs, essayé de répondre le plus possible aux besoins des parents au Québec. On s'est beaucoup inspiré de la France. En France, ça fait 30 ans qu'ils offrent des services dans ce genre-là. Puis au Québec, ben justement, il n'y avait rien vraiment là, de spécialement pour ça. Il y avait un manque de ressources.
Bon.
Donc, c'est pour ça. Puis, tu sais, les préoccupations souvent qui vont revenir pour les parents ou même pour les autres, tu sais, le fait de ne pas perdre son enfant, de s'assurer de pouvoir lui donner les soins comme il faut, ou même aborder un peu le jugement des autres ou la surprotection. Comment s'affirmer dans ce rôle-là quand on
bien
a une déficience visuelle?
Bien sûr.
Donc, c'est important pour nous là, de qu'ils vivent cette étape importante-là de leur vie, puis qu'ils ne se sentent pas seuls.
Je comprends. Parce que Sarah Rouleau, qu'on se le dise, mais lorsqu'on est un parent qui est partiellement ou totalement aveugle, il y a des questions que nous ne nous posons même pas, mais qui se posent fatalement. Vous devez avoir plein d'exemples à nous donner, d'ailleurs.
Effectivement, on l'a abordé rapidement, mais tu sais, dans les défis qui peuvent préoccuper les parents, donc la sécurité, entre autres, de savoir où se trouve notre enfant quand on ne voit pas. C'est une chose de base, là, mais c'est la première chose à laquelle on peut penser quand le parent ne voit pas. Ça peut être des petits trucs, là, comme d'accrocher des grelots ou quelque chose qui fait du bruit, mettons, sur son enfant qui marche à quatre pattes, on sait il est où. Quelqu'un qui a un restant de vision, ça peut être de mettre des couleurs fluo ou flash sur son enfant, ou encore même avoir des, tu sais, les souliers qui font du bruit. Donc, il y a plein de petits petites choses comme ça, mais qui sont essentielles. La sécurité, entre autres, ouais. le savoir quand on est dans une autre pièce, nous, ben l'enfant, il peut peut-être chanter une chanson, tu sais, pour qu'on sache à peu près, il est dans la maison, que tout va encore bien.
Ça doit être terriblement paniquant, excusez-moi, mais tout d'un coup, parce que déjà, souvent, quand on n'entend pas un enfant, la réaction des parents, c'est bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme bêtise? Mais si en plus on n'a pas la vision, c'est terrible.
C'est ça, c'est d'avoir des trucs. Puis quand on est préparé, ben ça va. Quand, exemple, là, de s'assurer qu'il n'y a rien qui traîne, que tous les tiroirs, de toute façon, c'est de plus en plus populaire chez tous les parents, mais que tous les tiroirs sont barrés et tout. Bon, déjà, on sait que l'environnement est sécuritaire. Puis ensuite, c'est ça, c'est avec des petits trucs. Par exemple, dans une foule, tu sais, que la personne, si elle perd son enfant, s'il fait juste crier maman, chaque fois qu'elle va entendre un enfant crier maman, elle ne saura pas si c'est le sien. Mais on peut se dire à son enfant, si tu te perds, crie un autre mot, crie. Comme ça, on le reconnaît.
Mais oui.
Quand on est outillé, quand on est prêt, c'est moins paniquant, justement. Puis ça se fait. On a plein de belles histoires de parents qui ont une déficience visuelle, qui ont eu des enfants. Puis c'est une belle expérience. D'ailleurs, quand les groupes le voudront, il y aura des témoignages de gens qui sont passés par là puis qui pourront échanger. Là, on parlait de la sécurité, mais d'autres défis aussi, c'est les déplacements.
Ben
on sait que se déplacer, sortir, on ne veut pas là, que les parents restent isolés, qu'on sait que c'est déjà une conséquence de la perte de vision, mais ça peut être aussi simple que d'utiliser le bébé dans un porte-bébé ou dans une écharpe. On sait que la canne blanche puis une poussette, c'est peut-être pas l'idéal. Les harnais aussi, des fois, on voit de plus en plus ça, là, le sac à dos, que l'enfant peut se promener autour de nous, mais on est toujours attaché à lui d'une certaine façon. Les soins de l'enfant, c'est un autre défi ou enjeu, mais avec les trucs parlants comme le thermomètre parlant ou les étiquetteuses qu'on peut étiqueter nos produits, nos médicaments, ça peut être des solutions qui aident. C'est sûr que les dégâts ou sinon s'assurer de trouver les choses en lien avec le bébé, mais tout ça, on a des trucs pour ça. Et les parents entre eux pourront s'échanger des trucs aussi.
Formidable, Sarah. Alors, où et comment peuvent-ils s'inscrire?
Oui, pour avoir de l'information ou pour donner notre nom, il faut contacter Najla, l'intervenante psychosociale chez INCA, au 1-800-465-4622, poste 232. Donc, 465-4622, poste 232. Puis, les parents là, auront plusieurs outils et un nouveau réseau là, pour les aider.
Si on va sur le site d'INCA, on peut aussi avoir des informations?
Oui, bien sûr.
Inca.ca.
/Québec.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Sarah. Et puis, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et au plaisir de vous retrouver sur nos ondes.
Bien oui, à la semaine prochaine.
Salut,
et au plaisir
Sarah.
De voir les parents cet automne.
Oui, d'accord. Salut. Bye.
Merci.
En attendant, vous écoutez Aime l'été. Me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de sport. Trop longtemps. Bonjour, Émilie.
Bonjour.
Émilie Bouchard-Labonté. Le moral est bon, Émilie. L'été se passe bien.
Oui, bien, de retour d'Abidjan, des Jeux de la francophonie, depuis à peine 48 heures. Alors, l'été se passait bien là-bas. J'espère que l'été se passait aussi bien ici.
Certainement. Et alors, là-bas, nous étions représentés aux Jeux de la francophonie. Beaucoup de parasportifs, entre autres.
En fait, le Québec n'avait pas de délégation, mais il y avait quand même plusieurs compétitions en para-athlétisme auxquelles j'ai pu assister.
D'accord.
Du saut en haute, à longueur et des courses aussi là, réservées aux athlètes ayant des handicaps.
D'accord. Alors donc, ça se passait à Abidjan?
Oui.
De façon générale, tout s'est bien déroulé?
S'est bien déroulé. Il y avait beaucoup d'athlètes qui ont pu, en du sport, qui ont pu représenter leur pays. Je pense qu'il y avait une centaine d'athlètes au total là, qui étaient dans les catégories en du sport, en athlétisme. Puis autant là, Ils ont eu la même foule pour les encourager. C'est vraiment des compétitions intégrées au même programme des épreuves d'athlétisme là, auxquelles tout le monde était convié.
Bon, alors vous avez envie pour nous aujourd'hui de faire des gros plans sur qui? Sur quel sport?
Bien, en fait, c'est sûr que j'aimerais ça vous parler un peu de ce qui s'est passé en athlétisme, puisque c'est la seule catégorie en handisport qui s'est présentée, mais vraiment vous parler de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays les Jeux se déroulaient en Côte d'Ivoire, les partisans étaient très, très fous. Chaque fois qu'il y avait des athlètes qu'il y avait des athlètes en compétition dans leur sur la ligne de départ qui représentaient leur pays. Et ça a été très bien pour la Côte d'Ivoire pour ces Jeux, notamment en athlétisme, là, qui a eu quand même quelques médailles, même des doublés là, qui se sont réalisés dans le domaine au handisport, notamment là, à la course de 200 mètres. Là, ça avait été une course super enlevante, puis on est assisté à un doublé ivoirien. Là, c'est vraiment beau à voir les personnes, les spectateurs
s'embrassaient, pleuraient.
Oui, c'est vraiment une ambiance là, très festive. Mm-hmm. Les Ivoiriens ont vraiment répondu au rendez-vous à toutes les compétitions d'athlétisme. Pas dans le handisport, mais les Ivoiriennes ont gagné le 4x100 mètres dans le relais 4x100 mètres. Et là, c'était la foule a été s'est soulevée.
C'est impressionnant,
oui.
Ah oui. Alors, et sinon... donc là, vous nous parliez d'athlétisme, le 4x100 mètres. Sur quoi on pourrait s'arrêter encore maintenant, Émilie?
La course de 200 mètres, il y avait 4 Ivoiriens dans le top 3, dans le 3 Ivoiriens, pardon, dans le top 4. Donc, le 200 mètres, c'est le T46 encore qui est une course en fauteuil roulant.
D'accord.
Qui a été vraiment très, très, très enlevant. Sinon, en général, ça a été vraiment des très beaux Jeux de la francophonie, puis très accessible aussi pour les athlètes en sport.
Ah
donc,
oui?
Dans le village des athlètes, au premier niveau, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'ascenseur pour aller au niveau supérieur, mais dans les premiers niveaux, il y avait tout le temps des chambres adaptées pour les personnes en chaise roulante, ou les personnes qui doivent vivre avec un handicap. Donc, tout était fait en sorte... au niveau plancher, tout était fait en sorte pour que ce soit accessible autant à la cafétéria, autant dans les transports pour pouvoir accommoder le mieux possible ces athlètes-là.
Ah, ben ça, c'est fantastique, ça. Chaleur là-bas, grosse chaleur en Côte d'Ivoire?
C'est la fin de la saison des pluies, donc c'était pas la grosse chaleur, puisque c'est un peu nuageux. Mais quand le soleil sortait, je vous dirais que ça tapait fort, mais ça fait du bien.
Bon, sinon, j'imagine que les sports, par exemple, pour les personnes non-voyantes étaient aussi représentés?
Pas de ce que j'ai été témoin pendant les Jeux de la francophonie. Mais on peut revenir aussi dans... Parce que là, je saute du coq à l'âne un peu, mais les championnats du monde de para-athlétisme qui ont eu lieu, je pense que vous avez parlé des athlètes qui allaient être en compétition à ma dernière chronique. Et ça a très bien été, entre autres, pour l'athlète malvoyant, le Guillaume Ouellet, qui s'est rendu très loin au championnat du monde.
Ah oui! Il s'est rendu à quelle position?
Médaillé de bronze aux 5000 mètres.
Ah, wow!
Oui,
ah bon, alors...
Oui.
OK. Vous nous aviez parlé d'autres personnes aussi, je crois, hein, Émilie?
Oui, Brent Lakatos qui avait un très bon début de saison, qui a été couronné champion du monde. Donc, c'était une autre très belle performance de son côté aussi. Très, très bel été en para-athlétisme pour nos athlètes québécois au niveau des championnats du monde. C'est vraiment... Ça a vraiment été des très belles récoltes.
Bon, ben écoutez, tant mieux, parce qu'il faut que ce beau monde-là, maintenant, se prépare pour les prochaines Olympiques. Alors, ça augure bien?
Oui, tout à fait. Ben, il leur reste encore 3 ans de préparation en vue des prochaines
Olympiques
à Tokyo. Et il va y avoir... Le processus de sélection va commencer un an avant le début des prochains Jeux. Mais sinon, en parasport, là, il va y avoir plusieurs compétitions à surveiller, notamment du boccia qui se passe présentement en Colombie, du basketball en fauteuil roulant qui se passe aussi également. La Coupe des Amériques qui va se passer, qui est pour qualification pour les championnats du monde. En tout cas, plein de belles compétitions à suivre prochainement.
Ah, ben c'est superbe. Alors, on va se reparler forcément, Émilie, alors.
Oui, absolument.
Alors, prenez soin de vous. Bon retour, parce que j'imagine que vous êtes encore un petit peu vaseuse. Là, vous êtes encore un peu sur le décalage. Mais quoi, vous aviez une belle énergie au téléphone. Bravo.
Merci, bon, on se reparle.
Allez, on se reparle et puis bonne journée. Salut.
Au revoir.
Tu détestes ta jeunesse, tes beaux cheveux blonds juvéniles qui descendent comme la vie près du mouvement de tes cils. Tu détestes ceux qui, grâce à l'amour, ne sont plus les mêmes. Tu préfères dire je t'aime à grands coups de bouquet de haine. Tu n'es pas certain d'être bien, mais jamais tu ne l'avoueras. Avoir des gestes qui font rêver, c'est tout ce qui compte ici-bas. Les magiciens des temps modernes savent bien comment mentir, comment fabriquer le beau en tuant quelques souvenirs. Tes amis sont bien, mais tu comprends le mal du grand savoir que même ne pourraient goûter malgré leur force noire. Tous ensemble, vous jouerez sans malaise aux grands enfants blasés qui tanguent de la tête sur des rythmes fantomatiques saccadés. Tu repenses à tes amours, à tous ceux que tu as baisés, à quel point ils avaient l'air heureux d'avoir pu te consommer. Tu as pris un verre de trop, mais c'était pour équilibrer les sensations provoquées par tes rêveries colorées. S'étourdir est un remède facile quand l'âme a la nausée. Face aux complications répétées par la vie imposée, tu danses muet près de ton ami, celui qui sait te parler, te raisonner quand tes larmes reviennent au pas comme une armée. C'est le seul moyen que tu as pu trouver pour oublier le poids de la solitude qui revient sans cesse te hanter. Tu le sais pourquoi, mais même les mouvements dictés par ton cœur font que tu te sens abandonné au milieu de tes peurs. Crois-tu qu'un jour, malgré tout, tu seras capable d'aimer? Seul moyen possible de le savoir, c'est de recommencer. La science du cœur est un objet d'abstraction propulsé par la volonté qu'ont les gens tristes à se laisser toucher. Ça fait déjà 4 jours que tu n'as pas dormi. Dans ta tête, de la musique résonne, te réveille dans la nuit. Comme si ta peine avait donné naissance à une symphonie. Est-ce là le signe annonciateur d'une prochaine folie? Tu repenses à ta grand-mère, tu dis qu'elle t'a vraiment aimé. Tu revois sa couche pleine venant tout juste de déborder. Le contraste est trop mince entre début et finalité. Mais tu te résignes sans peine devant cette fatalité. Tu regardes tes vêtements et cette image immaculée que tu projettes sans vouloir comme un jeune enfant surdoué. Tu te dis qu'un jour, c'est certain, tout ça sera démodé. Que chacun des trophées que tu portes brûlera dans l'éternité. Que ton corps devenu flasque et faible aura tout effacé. Les traces de ta jeunesse, les traces trop fragiles de l'été.
Lorsque M. Pierre Lapointe se prend un petit peu pour du Philippe Glass, hein, musicalement parlant, eh bien, cela donne ceci. Laisser partir son chien pour Mira, c'était un texte de Claude Laplante trouvé dans lapresse.ca récemment. Je dis souvent qu'on doit laisser aller le chien quand il est devenu tranquille et qu'il a fini de tout endommager dans la maison, lance Madame Tessier en riant lors d'un entretien accordé à la Tribune. C'est certain qu'on pleure quand ils partent, mais c'est aussi pour une bonne cause. On sait qu'il fera du bien, mais c'est aussi un peu égoïste comme geste. C'est une bonne manière d'avoir un chien. Marie Tessier en est à son 3e chien de race Saint-Pierre pour la Fondation Mira. Les 3 ont été vraiment différents. Le premier était assez énervé, se souvient-elle. Je ne pensais pas qu'il pourrait devenir chien guide. Il avait tout démoli dans la maison. Même une cassette de jeux vidéo échappe sa fille Jordan. Eh bien, c'est devenu un très bon chien guide. C'est lui qui m'a fait le plus pleurer jusqu'à maintenant, dit Madame Tessier. Le deuxième n'a pas réussi le test. Il n'a pas pu être un chien guide, ajoute-t-elle. Il était trop nerveux. On redoute toujours l'appel de Mira, qui nous dit que le chien n'a pas été retenu pour être guide. C'est très triste. On est tenté de se dire que c'est de notre faute, mais c'est plutôt son tempérament qui ne convient pas. Comme l'animal n'a pas été offert à une personne handicapée, on l'a offert à la famille d'accueil. Madame Tessier mentionne qu'elle a pu trouver une cousine prête à payer les 1 000 $ demandés pour pouvoir l'adopter. « Je me suis déclarée gardienne officielle lors des vacances de ma cousine », dit-elle en montrant le chien en question lors de l'entrevue pour ce reportage. La famille héberge actuellement un jeune Saint-Pierre de 7 mois, baptisé Kafir. L'animal commence à montrer des signes d'obéissance. Les Saint-Pierre sont vraiment de bons chiens, ils sont obéissants et affectueux. Après lui, un quatrième chien prendra sa place ? Il va falloir que mon employeur accepte encore que je puisse amener le chien au travail, répond cette directrice de l'Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook. Il faut être en mesure de les garder le plus possible avec nous, le laisser seul le moins souvent. La famille d'accueil est bénévole. La nourriture et les services vétérinaires sont assurés par la fondation Mira. On doit s'assurer de montrer les bonnes manières aux chiens, comme de ne pas monter sur les divans et les lits. Lors des transports en voiture, ils doivent demeurer couchés au tapis sans s'asseoir sur les sièges, énumère Madame Tessier. Ne devient pas famille d'accueil qui veut. De nombreux critères doivent être respectés pour prendre chez soi un chien, devant devenir les yeux d'une personne souffrant de troubles de la vue. Les informations figurent sur le site web de la Fondation. C'est justement l'Internet et les réseaux sociaux en particulier qui ont changé la façon de faire dans le recrutement de foyers pour héberger les chiens de Mira, mentionne Lynn Saint-Amour de la Fondation. On doit attendre jusqu'à 2 ans pour en accueillir un. Avant, nous devions faire de la publicité à la radio et les journaux pour recruter des familles d'accueil. Nous en manquions régulièrement. Mais maintenant, la situation est inverse. Les réseaux sociaux ont tout changé. Les gens diffusent l'information, créent des groupes. Quand ils voient ce que les familles font avec les chiens, tout le monde en veut. Cette femme est une boule d'énergie et elle nous donne cette énergie, elle nous la transmet pour nous donner à notre tour envie de bouger, surtout peut-être aux personnes qui sont un petit peu plus frileux à l'idée de sortir, qui ont peut-être un petit peu plus l'envie de rester à la maison. Je parle des gens âgés notamment, mais âgés à partir de 50, 55 ans, puis qui en font de moins en moins. Bonjour France.
Bonjour.
Comment allez-vous ce matin ?
Très bien.
France Remette, donc aujourd'hui, c'est une chronique personnes âgées et soins. Et comment on s'y prend pour rester actif et en forme?
Et voilà. Parce que plus on vieillit, plus c'est important de bouger et moins on a le goût de bouger.
Mais hein? Oui,
c'est
ça.
C'est souvent ce qui se passe. Alors, on a parlé de la mise en forme à ma dernière chronique, mais là, on va creuser un peu plus de façon pratique sur comment s'activer. Alors, c'est très important parce que les bénéfices, bien, on les observe immédiatement après avoir fait un exercice. C'est ce qui nous motive normalement. Alors, il faut se rappeler de cela. Hein?
Mais oui, c'est ça. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on hésite? Pourquoi est-ce qu'on hésite à participer à une activité physique si on sait tous les bénéfices qu'on observe, justement?
Mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer, se dire qu'est-ce que je veux moi, pour mon futur. Hein? C'est ça part de là. Hein? Et il y a souvent un manque d'énergie au départ, il y a un effort à fournir. Hein? Ça, je pourrais dire, c'est peut-être ça là, au début. Mais il y a aussi des conditions. Il y a des conditions de douleur chronique, par exemple. Des gens qui souffrent d'arthrose, c'est évident que ce ne sera pas évident de s'activer, même si c'est bon pour soi. Mm-hmm. La crainte de tomber par... Il y a des gens qui ont moins d'équilibre, hein, oui. ou qui ont une vision déficiente et qui peut... Bon, on n'a plus de difficulté à bouger. Des conditions climatiques, nos longs hivers, c'est un autre facteur qui joue, c'est entendu.
Et l'entretien des rues pas toujours adéquat.
Et voilà, et quand il y a eu une petite pluie verglaçante, là, c'est sûr que c'est pas le bon moment pour sortir, mais malheureusement, on en a souvent des conditions difficiles. Oui. Et il y a aussi une question de budget. On peut vouloir faire une activité qui nous intéresse, mais qui coûte très cher. Alors, mais on va essayer de contourner tout ça. C'est ça le but de la chronique aujourd'hui. Et de s'encourager à prendre soin de soi autrement, en bougeant davantage pour se sentir bien dans sa peau, puis en cultivant sa forme physique. Je pense que c'est très important.
Ben oui.
Bon, on va parler un petit peu aussi de la prévention des chutes.
Oui, prévention des chutes, très bonne idée, parce que c'est un phénomène qui se répand beaucoup. Il me semble que de plus en plus, on entend parler de chutes, de gens qui chutent.
Oui, on en entend parler, c'est certains, parce que les chutes ont des conséquences assez négatives.
Ben oui.
On dit, d'après une enquête québécoise sur les aînés qui a été publiée par la Direction de santé publique en 2012, alors c'est des données quand même très récentes, on observe qu'environ 4 % des personnes âgées de 65 ans et plus font au moins une chute chaque année qui est assez grave pour demander une consultation médicale, pour limiter les activités.
Alors, c'est énorme, quand même, c'est beaucoup.
C'est important.
Ben oui.
Alors, on pense à 40 000 personnes par année ici, au Québec. Et où est-ce qu'elles surviennent, ces chutes-là? Bien, c'est étonnamment 70 % du temps à domicile. C'est pas parce que ça va prendre une marche au parc nécessairement, mais ça peut arriver dans le domicile ou à proximité, en glissant sur une surface ou parce qu'il y a un obstacle. Et même en utilisant les escaliers, en montant ou descendant. Puis moi, je l'ai observé dans mon voisinage, j'ai des voisines qui ont fait des chutes importantes et c'était en utilisant les escaliers.
Ah donc, oui.
Bon.
Oui, oui. Mais est-ce qu'on peut les prévenir, ces chutes-là? Parce que,
bien
je veux
sûr.
Dire, c'est quand... Vous pensez?
Bon. Oui, bien sûr.
Bon.
Toujours dans cette même étude, et aussi un cadre de référence ministériel qui a été émis en 2004, on y réfère, là. Il y a trois facteurs essentiels dont il faut tenir compte. C'est notre capacité à la marche puis notre équilibre. Alors, il faut y travailler pour prévenir les chutes. Les médicaments, si on se sent toujours un peu faible, étourdi, bon, il faut peut-être revoir nos médicaments avec notre médecin, pharmacien. Mm-hmm. Et l'environnement domiciliaire, les fils électriques d'une lampe, d'une télé qui traînent, dans lesquels on peut s'accrocher, d'autres objets encombrants, des tapis qui ne sont pas fixés sur lesquels on peut glisser, c'est évident. Et il y a aussi, évidemment, quand on n'est pas en forme en général, qu'on a même de l'hypotension qui peut provoquer un étourdissement, on peut tomber.
Oui.
Et la consommation d'alcool, bien sûr.
Bien sûr. Mais il y a des programmes qui existent aussi pour renforcer un petit peu la confiance et l'équilibre.
Oui, puis on essaie de faire la promotion de ces programmes-là. Entre autres, il y a le programme PIED, qui veut dire Programme intégré d'équilibre dynamique. C'est un exemple.
Oui.
C'est un programme qui est offert dans plusieurs sites au Québec. Alors, il s'agit d'un programme d'exercice animé par un professionnel qualifié qui a été formé pour donner ce programme-là.
Oui.
Les mouvements sont sécuritaires, sont adaptés aux capacités des aînés. Et ils visent, les exercices, évidemment, à améliorer l'équilibre et la force musculaire. Et habituellement, c'est offert deux fois par semaine pour une période de 12 semaines. Alors, je vous invite à vous informer auprès de votre CLSC.
D'accord.
Et aussi le site de la FADOQ, FADOQ. On va donner les coordonnées sur notre site au canal M pour connaître les organismes qui offrent le programme dans votre région.
D'accord. Donc, le programme PIED, un pied comme un pied, programme intégré d'équilibre dynamique.
Voilà. Voilà. Et il y a d'autres options, la pratique du tai chi, qui est une activité qui combine le mouvement, la respiration, la méditation. Il y a toujours aussi les exercices de yoga sur chaise, du yoga douceur pour les aînés et autres. Mais quand on n'a pas accès à ces programmes-là, parce qu'évidemment, ce n'est pas nécessairement accessible, il existe aussi, tu sais, Clotilde, une multitude d'activités qui peuvent contribuer à la mise en forme. Quand on pense à la natation, la marche à pied, le jardinage, la danse, le golf, aller jouer au hockey, bon, il y en a plein, hein?
Mais oui, absolument, absolument. Mais par contre, la question, c'est... Si, par exemple, une personne n'a jamais fait beaucoup de sport, d'accord? Donc, comment on peut penser qu'elle va se motiver?
Bien, je pense qu'avant tout, c'est une question d'engagement vers soi-même.
Ben oui.
Hein, c'est important. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on désire pour soi-même? Si, ça part de là, hein?
Oui, ben oui.
Même moi, là, moi aussi, là, l'hiver, là, ça me tente pas toujours d'aller faire mon aquafone, mais je me dis, qu'est-ce que... Oh, les conséquences si je le fais pas. Je
ouais,
pense à ça.
Ouais,
alors, peut-être qu'il faut se poser la question, comment on veut débuter d'abord? Est-ce qu'on veut le faire seul ou avec une amie? Est-ce qu'on aimerait mieux? Est-ce qu'on est plus du type à joindre un groupe pour se motiver? Mm-hmm. Alors, il faut peut-être s'analyser un peu, hein, réfléchir avant de se lancer tête baissée là, vers une activité qui ne nous convient pas. Puis quel genre d'activité, bien sûr, on préfère? Hein? Je pense qu'il faut se questionner.
Oui.
Je reviens à Michel Sirois qui a écrit un magnifique livre, Vieillir en santé, qui nous rappelle qu'il y a trois facteurs qui influencent la poursuite d'une activité. C'est le plaisir, l'esprit d'équipe et la simplicité de l'activité.
Ah, j'ai cru que vous alliez dire le plaisir et le plaisir.
Ah, bien non, mais on pourrait.
On pourrait, hein?
On pourrait. C'est surtout ça, bien sûr.
Et puis,
alors, évidemment, il faut peut-être voir qu'est-ce qu'on préfère, hein, puis qu'est-ce qui nous amuse le plus dans toute la gamme d'activités. Il y en a qui n'aiment pas se mouiller dans une piscine, d'autres, c'est ce qu'ils préfèrent. Alors, il y a aussi différentes activités qu'on peut faire, soit dans un gym, mais aussi en dehors du gym. L'esprit d'équipe, c'est ce qui nous permet de se créer un réseau d'amis aussi, il faut y penser.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Alors,
c'est
ça peut vraiment, comme les groupes de marche,
les
groupes de marche dans des centres, même dans des centres d'achat, là, qui se font un peu partout au Québec ou ailleurs, ça peut être à l'extérieur. Quand il fait très beau à l'automne, la fin de l'été, là, c'est une belle occasion pour commencer à faire partie d'un groupe de marche. Et évidemment, on a aussi la simplicité. Il ne faut pas que ce soit compliqué. Hein.
Non, c'est sûr, c'est sûr.
Les équipements complexes, là, puis les activités trop rapprochées dans le temps aussi, qui nous limitent pour d'autres activités personnelles.
Oui.
Alors,
il
faut penser à tout ça.
Mais dites-donc, France, vous qui connaissez tout à ce niveau-là, quand on dit qu'il faut pratiquer régulièrement une activité chaque jour, ça représente quoi en termes de temps, d'après vous, pour que ce soit vraiment efficace?
Bien, on parle d'un total de 150 minutes. Alors, on peut penser à une demi-heure par jour, cinq fois par semaine, ou on peut diviser ces périodes d'exercice en sessions 10 minutes à la fois.
Ouais.
Et on peut faire des exercices tous les jours en période de 10 minutes. Alors, ça, c'est possible. Alors, c'est selon chaque personne. Mm-hmm. Mais c'est important de faire des exercices d'aérobie. Alors, c'est des exercices qui font travailler le cœur et les poumons. Mais attention, là, pas trop intensément. On doit être en mesure de parler en les pratiquant. Alors, on donne comme exemple la danse, le vélo, la marche rapide. Il y a aussi les exercices de la catégorie, là, améliorer la flexibilité, augmenter la souplesse, les étirements, le yoga, entre autres, et les exercices de musculation. Par exemple, faire des exercices avec un poids, une boîte de conserve dans chaque main.
Ben oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous des poids à la maison, mais on a tous parfois des gros livres.
Oui.
Ken Follett, moi je vous recommande Ken Follett, ça fait des poids extraordinaires.
Ah bon! Merveilleux.
C'est un auteur, ça tellement... Écoutez, il n'y a rien en bas de 1000 pages. Alors, Stephen King et Ken Follett, c'est parfait pour faire des poids, pour
bon
remplacer.
Mais attention aussi, hein, l'activité physique n'est pas sûre pour tous. Hein. Il faut,
non,
si on a vraiment une condition de santé particulière, qu'on soupçonne en avoir une, toujours consulter un professionnel de la santé.
Oui, absolument.
Question, par rapport aux fréquences, aux types d'activités physiques qui conviennent le mieux.
Bon, alors, les ressources.
Alors, les ressources, c'est LSG, la SADOC, Vie Active et les publications de Kino Québec, c'est sur le site du canal M. On va les déposer.
D'accord, d'accord. Et puis, il y a aussi des outils en activité physique, d'autres outils qui sont offerts, entre autres, à des regroupements d'aînés.
Oui, absolument. Il s'agit de s'informer là, dans chaque région.
D'accord.
Ou même aux villes, municipalités, on a beaucoup accès aux différentes ressources.
Bon, alors, on n'a aucun bon motif valable, finalement, de ne pas bouger un peu. C'est ce que vous nous dites semaine après semaine.
Ne serait-ce que faire quelques étirements,
exactement,
marcher davantage, s'activer.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, France Remette. C'est toujours un plaisir de vous entendre et on va vous retrouver une fois de plus avant la fin de la saison.
Oui, d'accord.
Au revoir, France.
Merci. Au revoir.
Salut. « Quelques rafales avant de vous quitter pour aujourd'hui. La Fédération québécoise de l'autisme qui vous offre un petit rappel, qui vous rappelle que le guide d'outils pour mieux gérer le quotidien est disponible et que c'est un outil indispensable pour les familles. On y trouve de l'information sur l'explication de l'autisme à différentes personnes et puis comment briser l'isolement de l'autisme au quotidien, les droits, les responsabilités, comment trouver de l'aide, etc. C'est un guide qui s'adresse également aux parents, frères et sœurs, aux personnes autistes et aux membres de la communauté. Alors, si vous êtes intéressé, on le commande comment ? On le commande via Internet à autisme.qc.ca/nos-produits/nos-produits. On vous invite à une journée familiale bien sympathique le samedi 5 août, donc dans deux jours, au parc Lindsay Cullen, rue Church, à Ormstown, au Québec. C'est la journée familiale Ramoose qui est de retour cette année. La famille Tremblay-Champagne vous invite à la deuxième édition de l'événement Ramoose Sons pour vaincre la SLA en soutien à la société de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique du Québec, en l'honneur de son organisateur Michel Moose Tremblay, lui-même atteint de la SLA. Le samedi 5 août, une multitude d'activités vous attendent au parc Lindsay Cullen à Ormstown. Il y aura de l'animation, de la musique, des jeux gonflables, du maquillage pour les enfants. Bref, il y en aura pour toute la famille. Et puis, à déguster des produits du terroir, un marché fermier, des hot dogs, des grillades, des boissons. Bref, venez en grand nombre à cette Ramoose pour la bonne cause. Pour plus d'informations, on fait moose3545@hotmail.com. C'était Clotilde Say qui vous présentait Aime l'été. Demain, je cède le micro à Kevin Breton. À lundi. Bonne journée.